écho, vous avez dit que la métaphysique ne se définit pas, mais réclame une vue synthétique. Qu'est-ce qu'une vue synthétique ? Alors, ne dites pas synthétique, le mot d'Aristote, c'est vue ensemble. C'est le mot synthétique, analytique et synthétique, ça a pris une forme, une signification très précise à partir de Kant. Alors, en réalité, c'est pas synthétique, ça a été mal traduit du reste par Tricot. C'est beaucoup plus une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble, c'est pas une synthèse. Une vision qui est, avec l'analogie, qui voit en même temps dans la diversité l'unité, c'est ça qui est très important. La vision univoque voit l'unité dans la diversité. La vision analogique voit dans la diversité l'unité. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est très important de bien voir ces deux manières particulières d'aborder les problèmes, de les aborder dans une vision univoque. Alors, on voit l'idée, l'unité, et à partir de là, on regarde la diversité. Tandis que la vision de l'analogie, qui peut être une vision d'ensemble très générale, et c'est la vision de l'acte et de la puissance, on voit dans la diversité l'unité. C'est-à-dire qu'on voit d'abord la diversité. On respecte la diversité. Quand vous voyez l'unité d'abord, vous ne respectez pas la diversité. Vous avez une unité préconçue. Et vous regardez la diversité à partir de l'unité. Alors que la diversité existe en premier. C'est l'intelligence qui unit et qui voit dans la diversité et au-delà de la diversité, mais dans la diversité, l'unité. Ça fait deux visions très différentes. La vision univoque, la vision analogique. Vous voyez ? Alors ça joue énormément en théologie, ça. Et la théologie moderne, la plupart du temps, je dis la plupart du temps, Kant a joué ce rôle, justement, de faire qu'on voit d'abord la diversité. Oui. Alors qu'au fond, on doit voir dans la diversité l'unité. Donc, au dernier cours, j'avais dit que la métaphysique ne se définit pas. C'est très vrai. Je ne peux pas définir des notions analogiques. L'être ne se définit pas. Le vrai ne se définit pas. Le bon ne se définit pas. C'est des notions que j'arrive à préciser à partir de la diversité. J'ai l'expérience de diverses bontés. La bonté d'un chien, la bonté d'un éléphant, la bonté de l'homme, la bonté d'un enfant, la bonté d'un homme arrivé à ses 40 ans. La bonté est diverse. Elle est diverse. La bonté du chien, c'est pas la bonté du cheval. Et ce n'est pas la bonté de l'homme. Alors, vous avez l'expérience de ces diverses bontés. Parce que c'est réel, ça existe. Et ayant l'expérience de ces diverses bontés, vous voyez qu'il y a quelque chose de commun. Quelque chose. Alors, vous saisissez ce quelque chose de commun, la notion commune, la ratio boni, et vous saisissez la ratio boni, ce quelque chose de commun. La bonté, vous ne définissez pas, vous saisissez à travers ces diversités de quelque chose de commun. Le bien m'attire. Il exerce sur moi une attraction. C'est ça la bonté. C'est pas la même chose que la perfection. Il y a des gens très parfaits qui n'exercent aucune attraction. C'est une bonté ambulante. Tout le monde s'écarte, mais personne n'est attiré. La bonté du Saint-Père attire. Regardez, quand on regarde les foules autour du pape, toutes tournées vers lui, attirées vers lui. La bonté attire. Alors, c'est très difficile à préciser ce que c'est que cette possibilité d'attraction. Tandis que la perfection, il ne vous manque rien. On est parfait quand il ne vous manque rien. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de manque. Mais on ne dit pas que ça attire. Non, il est parfait. Mais, bon, vous avez l'expérience de ça. Vous avez l'expérience. Ah, cet homme, il est parfait. Mais j'ai une fausse intense en face de lui. Il n'attire pas du tout. Il ne m'attire pas du tout. Et il n'attire personne. Il fait plutôt le vide autour de lui. Alors, la perfection de celui qui sait qu'il est parfait et qui ne cherche rien d'autre que sa propre perfection le met dans un isolement complet. Il ne l'attire pas. Alors, vous voyez comment l'intelligence humaine, par la diversité des expériences, la bonté du chien, la bonté de... Chaque fois, différente, réfléchit sur ces divers exemples. Et à ce moment-là, l'intelligence est capable de saisir à travers ces expériences et dans ces expériences ce qu'est la ratio boni. Qui n'est pas un genre. Mais la ratio boni, c'est pas comme lorsque vous saisissez qu'est-ce que c'est que l'homme. Ah, l'homme, vous pouvez en avoir une définition, parce que vous pouvez connaître ce qu'est le genre dans l'homme, animal. Nous sommes tous des animaux. Et on saisit dans l'homme l'animal. Mais on voit que l'homme, c'est un animal très particulier. C'est pas seulement celui qui bouge et qui se meut, mais il a la possibilité de raisonner, de saisir, de définir. Animal raisonnable, différent spécifique. La définition, c'est toujours genre et différent spécifique. L'intelligence qui dépasse le point de vue générique saisit la ratio entis, la raison d'être, la raison du bien, la raison de vérité. Alors saisir la ratio entis, c'est saisir ce qu'il y a de commun dans tous les êtres. Mais commun, pas génériquement, c'est saisir ce qu'est l'être. Ratio entis. Au-delà du genre. Et la ratio entis, la raison d'être, saisit dans la raison d'être tous les modes, possibilités d'être. Ils sont contenus virtuellement en acte dans la ratio entis. Je ne les chasse pas. Vous voyez, dans le genre, vous séparez le genre de la différence spécifique. Animal, raisonnable. Tandis que c'est deux choses différentes. Animal, on sait très bien ce que ça représente. Raisonnable, on sait très bien ce que c'est. Celui qui est capable de raisonner. Celui qui est capable de saisir une intelligibilité très particulière et venant préciser, déterminer la raison générique commune. La différence spécifique est extérieure à la raison du genre. Tandis que le mode qui vient préciser la ratio boni, la raison analogique, est présent en acte dans la ratio, mais n'est pas explicité. C'est deux manières de connaître. La logique n'atteint pas toutes nos activités intellectuelles. Et c'est pour ça que c'est si irritant quelqu'un qui veut tout définir et qui n'accepte que ce qui est défini. Mais donnez-moi la définition. Dites-moi, je ne peux pas. Ça ne se définit pas. Définissez-moi l'être. Hein ? Définissez l'être. L'être, c'est tous les êtres. Il est être. On ne peut pas le définir. Alors, vous distinguez l'être du néant. Ah oui, oui. L'être, c'est pas le néant. Mais vous ne définissez pas l'être parce que vous dites que l'être, c'est pas le néant. Le néant, ce n'est pas l'être. C'est la négation de l'être. Rien de plus. Donc vous ne définiez pas l'être en l'opposant au néant. Et c'est ça la position dialectique. c'est qu'on pense définir en opposant. Vous voyez l'erreur ? Parce que le néant n'est pas contenu dans l'être. L'être n'est pas le néant. Le néant, c'est le non-être. La négation totale de l'être, néant. Dès qu'il y a un être, il n'y a plus le néant. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que la définition n'entre pas en métaphysique. Toutes vos notions métaphysiques sont analogiques. Et vous vivez dans l'analogie. Alors, vous pouvez très bien regarder à partir de la métaphysique toutes les sciences, mais vous voyez très bien que la connaissance analogique atteint quelque chose de plus profond et de plus radical que la connaissance univoque par genre et différence spécifique. Il faut, quand on fait la métaphysique, ne jamais oublier la distinction de la connaissance métaphysique de la connaissance générique par genre et différence spécifique. L'abstraction n'est pas la même. Alors, ça, c'est pour une intelligence grecque. Une intelligence formée après Descartes. Donc, pour nous tous, hein. Après Descartes. Après Kant. Après Hume, après Auguste Comte, notre intelligence a émergé après tous ces génies. Et nous avons été formés par des maîtres qui n'étaient pas aristotéliciens, sûrement, qui avaient la formation générique de la nation. Les diplômes reconnus officiellement. Alors, c'est intéressant de se poser la question, mais à partir de quel moment un pays s'est formé dans sa culture sans voir l'abandon de tout ce qui avait été gagné dans la recherche grecque, dans la recherche du Moyen-Âge, de saint Thomas. Ils ont abandonné ça, se croyant plus intelligents, parce qu'ils étaient beaucoup plus savants. La science, les mathématiques ont joué un rôle très très grand sur la culture qui implique comme fond toujours le point de vue de la connaissance. Alors c'est très difficile de rattraper le temps perdu. On a été formé à la manière de Kant, à la manière de Descartes. C'est déjà quelque chose, hein. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien, ça dépend. Parce que ça peut être une déformation difficile, très difficile à revenir. Alors, on reprend sur quelque chose de commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces formations cartésiennes dépendante de Occam, parce qu'on est tous un peu occamiens, hein, dépendant de Kant, dépendant de Hume, qu'il y a de commun? Qu'est-ce qui n'a pas été touché par ça? C'est que nous avons un toucher. Je crois que quand nous mettons notre main dans un bassin où l'eau est bouillante, je crois qu'on a la réaction de dire « Oh, c'est brûlant !» Je crois que c'était la même réaction pour le grec, pour Descartes, pour Kant, pour Hume. Tiens, il faut peut-être aller jusque-là pour trouver quelque chose de commun. L'eau bouillante. Vous voyez, le dialogue est assez bref. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Et je fais la même réflexion au point de vue théologique. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Ce n'est plus Thomas d'Aquin. Non, plus du tout. Puisque même les thomistes disent Thomas d'Aquin, très bien pour son temps. Donc, on ne vit plus le Moyen-Âge. Donc, si Thomas d'Aquin est enfermé au Moyen-Âge, il est enfermé au Moyen-Âge, il est bon pour des thèses historiques. Mais y a-t-il une continuité de pensée entre Thomas d'Aquin et nous? Où est cette continuité? La foi. Ah oui. La foi, Jésus lui-même le dit, le Christ est le même aujourd'hui, hier et demain. Ah. Donc revenons à la foi. Vous voyez, ce qui est commun au point de vue philosophique, les sensibles propres. Les sensibles propres. Ce qui fait que nous pouvons comprendre Aristote. Parce que pour lui, l'eau bouillante, c'est la même eau bouillante pour nous. Vous voyez, comme l'eau est conservatrice. Elle est la même pour Aristote. La mer grecque est la même pour Aristote que pour nous. La baleine n'a pas changé. Elle n'est pas qu'ancienne. Elle est baleine. L'éléphant n'a pas changé. Il est éléphant. Ah, peut-être que certaines races de vaches ont changé. Hein? Ça se peut. Mais l'éléphant, beaucoup moins. Parce que on l'éduque plus difficilement. Il est plus tenace. Hein? C'est un conservateur, l'éléphant, vous savez. C'est l'image du conservateur. Et quand il n'est pas content, avec sa trompe, il est capable de saisir la bouteille et de la ramasser. C'est très important de voir ce qu'il y a de commun. Et ce qu'il y a de commun, c'est que la trompe d'éléphant pouvait embrasser aussi bien Aristote que Descartes. Dans la trompe d'éléphant, Aristote et Descartes étaient tous les deux des hommes. Oh. Et l'homme pour l'éléphant, c'est un ennemi. Il faut être bien sûr. Sensible propre. Les sensibles propres de nos sens ont cet immense avantage qui sont les mêmes pour Aristote que pour nous. C'est quand même intéressant, ça, de voir que, au point de vue humain, il y a quelque chose d'analogue à la foi. La foi de saint Thomas, de saint Jean, est la même que la nôtre. Comment voulez-vous qu'un conscient, purement conscient, puisse dire ça? Parce qu'il s'en dépend de la culture. La culture a changé. Mais ma métaphysique ne dépend pas de la culture. C'est là la très grande difficulté. Que je sois européen ou américain ou africain ou asiatique, c'est la même métaphysique. C'est curieux. C'est la même mathématique. On m'a dit que les Chinois, de formation chinoise, arrivaient à dépasser les Européens et les Américains dans leurs études mathématiques. C'est une constatation. C'est très intéressant, ça, de voir que la culture chinoise, donc la langue chinoise et la formation chinoise, les dispose plus facilement à connaître les mathématiques que le français, que notre français, que l'anglais, que l'allemand. Donc, l'abstraction de la langue chinoise doit être plus proche de l'abstraction type mathématique. Ah, c'est très intéressant. Alors, quand les Chinois vont nous rattraper au point de vue mathématique, ils vont tous nous battre. Et nous préparons d'être battus par les Chinois. Puisque nous abandonnons la culture grecque et nous nous mettons proches d'eux pour être battus par eux. C'est curieux, ça. Il faut réfléchir à ça. C'est quand même intéressant. La culture, elle n'est pas métaphysique, mais elle dispose plus ou moins. Nous sommes, nous, nos langues, notre formation, notre culture, jusqu'à maintenant. Mais depuis 10 ans, c'est différent. Nous avions avant une culture enracinée dans le grec et le latin. Grec et latin. Puisque le latin lui-même était enraciné dans le grec. Et maintenant, les mathématiques l'emportent. Et on s'aperçoit que la langue chinoise, par rapport aux mathématiques, a un immense avantage. Parce que l'abstraction, ce que je cherchais depuis longtemps, et ça m'intéresse beaucoup, ce petit renseignement qu'on a donné. Quelle est l'abstraction de la langue chinoise? Prenons toujours, nous, l'abstraction universelle, l'abstraction formelle. Mais ça, c'est grec. Et je cherchais cette différence. Pourquoi, à un moment donné, on n'a plus vu cette distinction dans l'intelligence, l'intelligence universelle, le genre et la différence spécifique. Ça, ça vient du grec. Ça vient du latin. C'est pas français, c'est grec. C'est pas allemand, c'est grec. Alors, quelle est l'abstraction de la langue chinoise? Et on s'aperçoit que c'est, par par le point de vue mathématique qu'on devrait l'aborder, et que les mathématiciens ont une proximité plus grande. C'est curieux, ça. Et c'est intéressant à réfléchir là-dessus. C'est réfléchir sur la base commune d'une culture. Il y a une base commune du culture pour l'Europe. Une très grande différence, évidemment. Ça s'est développé très différemment. Mais il y a une base commune. Tandis que pour le chinois, pas de base commune. Mais on s'aperçoit qu'au point de vue mathématique, ils sont plus proches de l'abstraction mathématique. Et en bon européen, en bon américain, nous nous approchons des mathématiques. Notre culture dépend de plus en plus. Donc, nous nous préparons à être dominés par les Chinois. Nous nous préparons. Nous mettons la disposition. C'est étonnant, ça. Et il y a des chances qu'on s'en aperçoive quand ce sera trop tard. Gardez le trésor de la langue grecque. Gardez le trésor de la langue grecque, parce que la langue grecque a été très vite le véhicule de la foi. Avant le latin, Jean court plus vite au tombeau que Pierre, hein. Donc le grec court plus vite que le latin. C'est curieux, ça. Analogie de similitude. C'est pas une analogie vraie, mais une analogie de similitude. C'est ça l'intérêt d'une culture. C'est de voir dans quelle mesure la culture touche quelque chose de profond, de radical. Et ce que nous faisons, nous, ici, dans cette étude de l'acte, nous la faisons avec notre culture proche du latin et du grec. Et nous essayons de voir que le grec a distingué energeia et entelecheia. Le latin a uni les deux en traduisant actus. Et le français est plus proche du latin, et en français on dit acte. Et le grec avait mis deux mots. Oui, comme c'est curieux, hein. C'est une simplification, mais en mettant les deux mots en un seul mot, ah tiens, on a peut-être fait la même erreur que raison et intellectus. On a mis un seul mot, l'entendement. Alors que les Grecs avaient deux mots, le logos et le point de vue du nous. Les Grecs distinguaient tout de suite contemplation et raisonnement. Et le latin a unifié ça. Et toutes les langues à partir de là ont unifié. Et une distinction qui est perdue. Dans la connaissance de l'acte, il y a une distinction qui est perdue. faut la retrouver. Elle est enfouie. Il faut la retrouver. Parce que autrement, on ne pénètre pas en métaphysique. On a fait la même distinction pour la substance. Ah oui, c'est vrai. On a vu que de fait, substance, pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est le sujet. C'est l'aspect matériel de la substance. On a vu que substance, il y avait deux aspects. On a dit en latin substance première, substance seconde. La substance première, sujet. Hein, au-delà du sujet, ce qui permet au sujet d'être sujet. Ce qui permet à la quidité, l'intelligibilité de la chose, le logos de la chose, d'être le logos de la chose. Il faut aller au-delà, redécouvrir l'ousia. Vous voyez, au fond, la métaphysique, pour nous, exige constamment un peu un travail d'archéologue. Et d'archéologue de l'intelligence. Parce que les cultures successives, la culture grecque n'est pas notre culture maternelle. Sauf si vous êtes grec. Si vous êtes grec, je salue très bas. Mais le grec moderne n'est pas le grec d'Aristote. Et dans le grec moderne, les distinctions aristotéliciennes ne sont pas toujours gardées. Alors c'est intéressant de prendre cette méthode d'archéologue. Il y avait le père Devaux, dominicain, qui était à Jérusalem et qui était un excellent archéologue. J'aimais beaucoup de parler avec lui pour comprendre qu'est-ce que c'est que la méthode de l'archéologue. Parce qu'au fond, pour nous, notre métaphysique, elle est très enfouie. Et nous avons de la peine beaucoup à retrouver la démarche première de l'intelligence. Si je ne retrouve pas cette démarche première de l'intelligence, je ne saisirai jamais ce que c'est que la substance. Comme principe, je ne saisirai jamais ce qu'est l'acte. Comme principe. Principe selon la forme, principe selon la fin. Il y a une œuvre un peu d'archéologue, parce que mon intelligence est la même que celle d'Aristote, mais elle n'a pas été éduquée du tout comme celle d'Aristote. Elle a été éduquée normalement, selon mon pays, et j'ai suivi l'éducation nationale pour passer les examens et avoir ces petits examens en poche. Parce que si je n'ai pas ces examens, je ne suis pas intelligent. Mais grâce à ces examens, je suis intelligent. Je suis reconnu comme intelligent. Grâce aux examens. Un prix Nobel est reconnu comme très intelligent. C'est très cru, hein, les civilisations, et le point de vue de la réalité. Et c'est sûr qu'il y a une part archéologique dans ce que nous faisons. Ça, c'est sûr. Ça ne se fait pas dans les lycées d'État. Parce qu'on prend tout simplement là où le fleuve se trouve, là où on en est. Aujourd'hui, voilà. le langage humain est ça, la connaissance humaine est là, les mathématiques sont indispensables aujourd'hui. Si vous n'avez pas les mathématiques, inutile de pousser. Soyez artiste. Là, c'est plus varié. L'art a gardé l'avantage d'une diversité. Oui, il y a une diversité. On est architecte ou violoniste. Le violoniste ne se dit pas architecte, parce qu'il construirait toujours des violons. Tous les couvents, toutes les maisons seraient violons. Et l'art a gardé la diversité. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Alors que la science n'a pas gardé la diversité. On dira, oh, vous êtes fantaisiste. C'est tout dit, hein. Vous êtes fantaisiste. Vous n'avez pas compris le génie scientifique qui est l'unité, avant tout, avant tout, avant tout. Ce n'est pas l'être, c'est l'unité. Ce qui enveloppe l'être, le genre. C'est ça l'important. Alors, je crois que c'est très important, vous voyez, de voir que dans nos études métaphysiques, il y a toute une part archéologique. Moi, je veux saisir quand même comment Aristote a pensé, puisque on reconnaît ordinairement que Aristote est un grand génie. Hegel, c'est pas loin de nous, hein, au point de vue de notre culture, a affirmé que Aristote était le premier génie philosophique, le plus grand. Il n'y a pas que lui, d'autres personnes tout à fait différentes ont affirmé cela. En Italie, Dante a affirmé la grandeur d'Aristote. À l'intérieur de l'Église, Thomas d'Aquin a affirmé la grandeur d'Aristote. C'est très intéressant de voir qu'au fond, il y a des témoins qui restent et qui indiquent qu'il y a là une source. Et l'intérêt d'Aristote, c'est qu'il est source. Et j'aime de découvrir l'eau pure, la source, aller loin. Parce que si j'ai une petite nappe, si je dévoue une petite nappe, vite terminé. J'aime mieux creuser et atteindre la source première. Il y a cela dans la métaphysique. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Mettre ma main dans un vase d'eau bouillante. La joie que vous pouvez avoir, c'est que Aristote a senti la même chose. Alors, je me suis brûlé, mais cette brûlure, elle est bien heureuse, puisque Aristote l'a eu. Donc, il y a quelque chose de commun avec lui. Sensible propre. Alors que dans les sensibles communs, alors, il y a eu les découvertes du microscope, les découvertes de l'expérimentation. On a creusé ce qu'Aristote a dit, c'est très superficiel. C'est très superficiel pour ceux qui considère les sensibles communs comme premiers. Aristote l'a dit, sensible commun, c'est pas premier. Les sensibles communs, on est avec Aristote. C'est extraordinaire. C'est comme dans la foi, vous êtes avec les saints qui ont vécu auprès de Jésus. Vous êtes avec Marie, la première dans la foi. Et vous pouvez avoir contact avec elle, réel dans la foi. Marie a reçu Jésus dans la foi. Et la foi n'a pas changé. Et votre intelligence et des sensibles propres n'a pas changé. Tandis que votre connaissance des sensibles communs a terriblement changé. Pourquoi ? Ah, parce que vous avez des appareils, des instruments qui vous permettent de saisir beaucoup plus loin que nous pouvons saisir naturellement. Et donc l'invention de ces systèmes a fait que de plus en plus on saisissait quelque chose que l'œil naturel de l'homme ne pouvait pas saisir. Ce que la main du toucher de l'homme ne pouvait plus atteindre. Or, l'existence d'une chose n'est saisie que par la main. Vous pouvez développer énormément toutes les connaissances scientifiques des sensibles communs, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas changer, c'est la connaissance de l'existence. Ceci est. Quand je dis « ceci est », Aristote est tout près. Je le rejoins. Quand je regarde les conclusions de la science mathématique, Aristote est très loin. Et j'aurais une tentation de dire « mais c'est idiot ». Aristote, il est mort. J'aime mieux me spécialiser dans les sensibles communs, parce que ça, c'est la science, c'est la construction. Je peux faire quelque chose. Les sensibles propres, ils s'imposent à moi. Je ne peux pas changer l'eau bouillante. Alors, je peux mettre des gants extraordinaire qui me permet de mettre ma main dans l'eau bouillante et de ne rien sentir. Ah, j'ai bien avancé, je ne sens plus rien. Et au fond, c'est comme ça. Nous disons, la science mathématique, elle avance beaucoup, la science moderne, beaucoup. Mais je ne sens plus les sensibles propres. Ils viennent très loin. Or, les sensibles propres, je suis. La base de la foi n'est pas les sensibles communs, c'est les sensibles propres. La foi est enracinée dans les sensibles propres. Et pas dans les sensibles communs. Je ne peux pas faire une théologie à base mathématique. Non. Au XIVe siècle, on a essayé de la faire. On a essayé, on a tout essayé au XIVe siècle. Comme on a tout essayé à notre époque. On fait de la théologie à partir de la cite, à partir de l'histoire, on fait la théologie à partir des connaissances mathématiques et scientifiques, oubliant que ces sciences n'ont plus aucun contact avec la foi. la foi saisit ce qui est. Et c'est par le point de vue de l'existence que je suis en contact direct avec Dieu. Oui, il faut sentir ça. C'est très important. C'est très important pour ce que nous essayons de saisir, l'acte. L'acte ne peut être dépisté, saisi, que si vous revenez au sensible propre. Vous ne pouvez pas saisir l'acte à partir de conclusions scientifiques où vous êtes plongé dans les sensibles corps. C'est pour ça que c'est si important, vous voyez, cette distinction sensible-propre, sensible-commun, toute la métaphysique est fichue, oui, dès que je pars des sensibles communs. Toute la science part des sensibles communs. Et c'est par là qu'elle est en liaison avec les mathématiques. Alors, évidemment, c'est pas commode de vivre à notre époque où la science, il y a tellement de choses grandes dans la science. L'Église a aidé la science de marché. La science remplace la sagesse. Parce que la sagesse repose sur le jugement d'existence. Ceci. On a besoin de temps en temps de bien voir ceux qu'on cherche et ceux qu'on laisse de côté, exprès, consciemment. Consciemment, nous voulons retrouver l'intelligence à partir des sensibles propres.